Alain Berruet va jouer le grand étonné quand on va l'interpeller.
Seulement après 30 heures de garde à vue et confronté aux éléments que les gendarmes ont accumulés contre lui, Alain Berruet craque.
Il entend des hurlements qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Il entend quelque chose qui lui glace le sang.
La jeune fille se trouve à l'étage, dans leur chambre, couchée, baignant dans le sang.
Le gendarme me dit c'est un crime, quoi.
Jusqu'au dernier moment, il a osé imposer son aplomb. Ses mensonges, sa manipulation, c'est inconcevable.
Le coupable, il nous présente ses excuses, là. Ses excuses qu'il est face au petit quand il sera en âge de comprendre, qu'il lui explique, là, ce qui arrive à sa mère, là. Voilà. Trop facile, ça.
Tout commence dans la nuit du 7 au 8 avril 2012. Christian et Graziella Rousseau sont réveillés par la sonnerie glaçante du téléphone. Un appel qui va bouleverser leur vie.
Aux alentours de 2h30 du matin, Alain appelle ma femme, en fait.
Et Alain qui m'appelle, pas très compréhensible, juste Maëva, sans. J'ai entendu le numéro de Maëva, je me suis habillée direct, du coup je suis partie.
Maëva, c'est leur unique fille. Elle a 22 ans. Elle vit en couple avec Alan. Ils habitent à Chérance, dans le Val-d'Oise, et ils ont un petit garçon de 13 mois. Lorsque Christian et Graziella arrivent sur place, leur inquiétude monte encore d'un cran.
Je suis arrivée au domicile de Maëva et il y avait la police, il y avait le SAMU.
Je me suis dit, là, c'est grave, là.
Et il y avait Alan avec le petit qui pleurait. Ben, j'ai pris le petit dans mes bras, puis j'ai commencé à le bercer, puis me bercer aussi, peut-être pour me rassurer.
Postés à l'extérieur de la maison de leur fille, les parents de Maëva comprennent qu'il lui est arrivé quelque chose de grave.
J'ai discuté avec un gendarme. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé à avoir l'autre fille, en fait. Ils refusaient, du coup.
On n'en savait pas encore plus. On parlait d'agression. Mais c'est tout.
Les parents de Maëva sont inquiets pour leur fille, mais aussi pour leur petit-fils. Et cela pour une raison simple.
Maëva dormait régulièrement avec le petit, était avec elle.
Pour le moment, les gendarmes ne disent rien aux parents de Maëva, et pour cause. À l'intérieur de la maison, ils ont découvert une véritable scène d'horreur.
La jeune fille se trouve à l'étage, dans leur chambre, couchée, baignant dans le sang.
Maëva a été rouée de coups. Elle a le crâne fracassé. Heureusement, son bébé, lui, est vivant, mais il est resté bloqué sous le corps de sa mère.
Ce petit garçon, il a vécu une scène, enfin, entre parenthèses, à la Dexter, quoi. Il se retrouvait baigné dans le sang, avec son bras coincé sous sa mère, qui était en train d'agonir, quoi. Il est resté comme ça, on pense, plus d'une heure.
Maëva Rousseau est dans un état désespéré.
Les pompiers, ils ne peuvent que constater que la jeune fille a le crâne fracturé. Le SAMU tente un massage cardiaque, de la réanimer.
Mais il est trop tard. Le décès de Maëva Rousseau est constaté à 3h30 du matin.
Il y avait une personne du SAMU qui venait me demander si Maëva était allergique à quelque chose. Je lui ai dit non. Il est remonté. Et quand il est redescendu, peu de temps après, c'est pour nous dire qu'il n'y avait plus rien. Maëva était partie.
Pour les parents de Maëva, le monde s'écroule. Mais ils sont loin d'imaginer la réalité de ce qui s'est passé au premier étage de la maison. Pour eux, leur fille a été victime d'un simple accident.
J'ai dit comme ça au gendarme, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, je lui dis, ma fille, elle s'est pas tuée sur la moquette, quoi, en tombant dans sa chambre. Et la personne, le gendarme, me dit, non. C'est un crime, quoi.
C'est incompréhensible. Puisque on nous dit une chose et aussitôt après, on est lancé dans, on va dire, une chorégraphie policière. Et puis, vous n'avez pas le temps de penser. La machine judiciaire se met en route. Vous faites simplement ce qu'on vous dit.
On se dit vivement qu'ils arrêtent le coupable. Voilà, quoi. Et ça, c'est un mauvais moment à passer, ça.
Que s'est-il passé cette nuit-là, à Chérence, ce petit village pourtant si tranquille ? Qui s'en est pris à Maëva et pourquoi ? Une chose est sûre, la scène de crime révèle que le meurtre de la jeune femme a été d'une violence inouïe.
Il y a du sang partout sur cette scène de crime. Les premières constatations montrent que cette jeune fille a été battue. On constate qu'elle a été battue sur tout le corps quasiment.
Et l'autopsie pratiquée sur Maëva Rousseau va confirmer que son agresseur est venu avec la ferme intention de la tuer.
On s'apercevra que son décès est dû à de multiples fractures crâniennes, mais extrêmement violentes. Le crâne est ouvert à plusieurs endroits. On constatera qu'elle a plusieurs côtes brisées, une clavicule et un poignet luxé, un doigt cassé. Son dos est zébré de marques bleues, et c'est assez impressionnant. Véritablement, on sent qu'elle a été battue à mort, quoi, cette jeune femme. Le médecin légiste va nous expliquer que pour lui, c'est un objet contondant, de type gros morceaux de bois, batte de baseball, voilà, un objet, un gros bâton, quoi. Ce type d'objet-là.
De leur côté, Christian et Graziella Rousseau essaient de faire face à la mort de leur fille, à l'horreur qui est entrée dans leur vie en une fraction de seconde.
Il vous manque quelqu'un, c'est votre enfant. On ne le digère pas, la nouvelle, mais en même temps, c'est comme si rien n'avait changé. Et c'est ce paradoxe que je n'arrive pas à concevoir, même si je le vis, et je le vis toujours au quotidien. En final, on agit comme s'il n'y avait rien.
Employée dans un salon de beauté, Maëva rêvait d'ouvrir sa propre onglerie. Avec son compagnon Alan, elle devait déménager quelques jours plus tard pour accomplir son rêve, disait-elle.
Elle me bluffait parce qu'elle en voulait et elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle était déterminée, volontaire et ça, c'est à 20 ans, il n'y en a pas beaucoup qui le sont.
Ah mais... Maëva, c'était une battante, mais pas renfermée sur elle-même. Elle n'était pas renfermée, elle avait le goût de la vie, le goût de la joie.
Depuis 3 ans, Maëva vivait une grande histoire avec Alan, son amour de jeunesse.
Alan, lorsqu'il évoque son histoire avec Maëva, il dit que c'était ma princesse de Bâle.
Ce sont deux jeunes qui se sont connus enfants, ils n'ignorent rien de l'un de l'autre. Alors, ils ont un peu eu des petits amis, chacun de leur côté. Et puis, ils se sont retrouvés et là, ils ont vraiment décidé de faire quelque chose de leur vie.
Du jour où elle est tombée enceinte, elle a établi son programme autour de son couple, autour de son petit. Pour elle, tout ça coulait de source.
Avec Maëva était très fusionnelle. Son fils était toute sa vie.
Une vie qui s'est arrêtée brutalement cette nuit du 7 au 8 avril 2012. Les parents de Maëva essaient de comprendre et ressassent le fil des dernières heures de leur fille pour voir si un détail ne leur a pas échappé.
On a mangé ensemble, s'occuper du bébé, on a discuté. Puis vers 10 heures, je lui ai dit de rentrer. Comme ça, le petit, tu le réveilles pas et il va dormir pour sa nuit. Vous serez un peu tranquille quand Alan rentrera.
Graziella embrasse alors sa fille pour la toute dernière fois.
Et comme 10h05, par là, elle n'avait pas de... J'ai pas eu de message, je lui envoie un message. Et elle m'a répondu, je fais dodo, mais j'ai galéré pour ouvrir la porte. Bon, j'ai fait un gros bisou, à demain.
Après ce dernier échange avec sa mère, Maëva Rousseau a encore envoyé d'autres SMS. Et c'est à son compagnon qu'ils étaient adressés. Alors les gendarmes décident de l'interroger.
Alan, pour sa part, lui, travaille en qualité de serveur. Et il va travailler toute la soirée à la ferme du Grand Chemin, qui est un restaurant. Il est censé finir sur les coups de minuit.
Il échange quelques SMS avec Maëva, qui est restée à la maison. Alors, elle lui dit qu'elle veut se remettre au sport, qu'elle a pris des kilos, qu'elle n'arrive pas à enlever ses kilos de sa grossesse. Enfin bon, il lui répond qu'elle est belle, qu'il l'aime. Et puis, il dit à tout à l'heure. Voilà. La vie est normale et il s'attend à rentrer chez lui, à retrouver sa femme, son fils.
À 23h18, Alan lui envoie un SMS. À partir de là, elle ne répond plus. Donc lui, Alan pense qu'elle s'est endormie. Il n'a pas de nouvelles d'elle, mais pourtant, il va lui renvoyer encore un SMS à 00h30 en lui disant « Écoute, je vais finir plus tard. Finalement, je ne vais pas rentrer tout de suite. Je ne vais pas rentrer avant 2-3h du matin. »
Alan rentre chez lui à 2h30 du matin. Le trajet entre son lieu de travail et son domicile dure moins d'une dizaine de minutes. Et lorsqu'il arrive sur place, le jeune homme remarque un détail inhabituel.
Il sait que Maëva aime pas être seule à la maison, elle a peur. Et donc, elle laisse en général la télévision allumée, voire une lumière en bas. Et là, quand il garde sa voiture, il se rend compte déjà que la maison est dans le noir. Ça le surprend. Et alors qu'il s'approche de la maison, il entend son fils hurler. Il entend des hurlements qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Il entend quelque chose qui lui glace le sang. Là, immédiatement, il met la main sur la poignée et il se rend compte que la porte est ouverte. Et ça, c'est complètement anormal.
La suite, les gendarmes la connaissent. Pourtant, un détail les intrigue particulièrement. C'est cette porte qui est déverrouillée.
Pourquoi cette porte est ouverte? Pourquoi Maëva, d'après ce qu'on a dit Alan, qui est une jeune fille peureuse, qui s'enferme normalement, pourquoi elle la laisse ouverte? Ça peut être parce qu'elle connaissait son assassin, peut-être que c'est elle qui a ouvert la porte, peut-être que c'est tout simplement un oubli de sa part, mais ça pose question.
Et ce n'est pas le seul élément qui va troubler les enquêteurs.
La maison n'a pas été fouillée. Mais la seule chose qui manque, c'est le sac à main de Maëva. Donc on ne comprend pas trop ce qui aurait pu motiver cette agression de la jeune fille.
Qu'y avait-il dans le sac à main de Maëva? De l'argent? La jeune femme aurait-elle été sauvagement assassinée à cause de cela? Quelques jours après sa mort, ce sont les propriétaires d'un restaurant qui vont apporter la réponse.
Il y a un endroit qui s'appelle le Moulin de Fourges qui va appeler les enquêteurs en disant « Écoutez, voilà, on a retrouvé un sac à main dans l'eau. Et ça nous semble bizarre, venez voir. »
J'ordonne la saisie de ce sac, des documents qu'il contient, et on s'apercevra que nous avons quasiment toute la globalité du sac, c'est-à-dire le portefeuille, la carte bancaire, tous les documents de Maëva.
Étrange. Non seulement il ne manque rien dans le sac de Maëva, mais en plus, il a été retrouvé près d'un restaurant dans lequel Alan, son compagnon, travaille régulièrement. Alors, le jeune homme serait-il impliqué dans le meurtre de sa compagne ?
C'est son conjoint, c'est lui qui la découvre. Il faut quand même qu'on comprenne s'il a quelque chose à voir dans cette affaire, c'est le plus proche. C'est une piste tout à fait envisageable.
D'autant que le jeune homme se livre à des petits trafics.
Clairement, Alan est connu localement comme étant un tiers vendeur de produits stupéfiants.
Il a une vie un petit peu turbulente. Les gendarmes se demandent si le crime n'est pas le résultat d'un règlement de compte entre dealers.
Et ils ne sont pas les seuls à penser que les petits trafics d'Alan sont peut-être à l'origine du meurtre de Maëva.
Mais sur le coup, on en avait après Alan. Parce qu'on croyait que c'était une histoire de drogue. J'avais pas lieu de penser à autre chose. Il y avait rien qui m'aurait dirigé sur autre chose.
Les enquêteurs prennent cette piste très au sérieux. Ils vont examiner les images de vidéosurveillance filmées le soir du meurtre sur le lieu de travail d'Alan. Et le comportement du jeune homme va leur sembler pour le moins étrange.
Alan va sortir du restaurant pour téléphoner. On le voit téléphoner pendant un long moment en faisant des allers-retours. Donc ça nous pose un peu question. Donc on va l'interroger assez longuement, justement, pour connaître toute sa vie, comprendre exactement tout ce qu'il fait.
En fait, ce soir-là, Alan est en train de vendre de la drogue. Et face aux gendarmes, il va très vite tout avouer.
Entre guillemets, il balance ce trafic, il s'auto-incrimine, mais il ne pense pas une seule seconde que ça puisse être en lien, parce qu'il n'a rien fait, entre guillemets, de mal. Il a arnaqué personne, mais il préfère tout dire.
La thèse d'un crime lié au trafic de drogue d'Alan est donc abandonnée. Le jeune homme est mis hors de cause. Mais son audition va apporter une nouvelle piste aux gendarmes.
Au cours de ses auditions, Alan va nous parler de personnes qui pourraient lui en vouloir, la famille Biruet.
Et voici ce que Alan déclare aux gendarmes.
Cela tourne autour de Biruet, c'est la seule chose que j'ai en tête. En tout cas, mes soupçons se portent sur cette famille, directement ou indirectement.
Les Biruet, ce sont des proches de la famille de Maëva Rousseau. Et pour cause.
Alain Biruet, c'est l'ami de Christian Rousseau, hein, donc le père de Maëva, depuis des années, hein, depuis une douzaine d'années au moment des faits. C'est des gens qui sont extrêmement proches, hein, ces deux hommes qui passent beaucoup de temps ensemble, ils font des petits chantiers à droite à gauche ensemble, ils sont très unis.
Alan raconte aux gendarmes qu'Alain Biruet et sa femme, Enda, les ont menacés de mort. C'était il y a 6 ans. À l'époque, Maëva vivait une histoire d'amour avec Rodolphe, le fils justement des Biruet.
Oh, je crois que c'était sa première amourette, hein. Ça a duré un an et demi.
Et Maëva finit par quitter Rodolphe.
Rodolphe vit assez mal cette séparation. Mais bon, ça ne l'empêche pas de retrouver une petite amie en la personne de Christelle. Et on a d'un côté Maëva et Alan qui vivent leur vie, s'installent ensemble, font un bébé. Et d'autre part, Rodolphe et Christelle qui également se mettent ensemble et vivent ensemble.
Seulement, Rodolphe n'a jamais oublié son premier amour. 6 ans après sa séparation d'avec Maëva, il tente de la reconquérir et c'est là que les choses vont s'envenimer.
Rodolphe envoyait des messages à Maëva sans équivoque, des messages passionnels, on va dire, et ça agaçait fortement Maëva.
Et puis, les SMS sont de plus en plus fréquents et pressants. Et Maëva parle à Alan de ses SMS.
Alan va trouver Rodolphe, qu'il connaît bien sûr, en lui disant « Bon, écoute, maintenant ça suffit, fais ta vie et viens pas empiéter sur mon histoire à moi. » Rodolphe va se tenir tranquille pendant quelques temps, mais de façon presque maladive, il ne peut pas s'empêcher de se remettre en contact avec Maëva.
Du coup, Alan va voir Christelle. Il montre à Christelle les SMS que Rodolphe a envoyés à Maëva.
Christelle est prise d'une colère froide et surtout d'une colère froide et définitive, elle va rompre définitivement avec Rodolphe. C'est-à-dire que sur le champ, elle va l'appeler pour lui dire que c'est terminé, et le soir même, ses affaires sont sur le palier.
Rodolphe est alors furieux contre Alan et décide d'aller régler ses comptes avec lui.
Très énervé, Rodolphe va prendre une bouteille de whisky, il va monter dans sa voiture. C'est quelqu'un qui ne boit pas forcément, et là qui va se mettre à boire. Il va rouler très vite pour se rendre à Chérance, où habitent Maeva et Alan, en disant « moi je vais aller régler le problème ».
Il part comme un fou, il est ivre, puisqu'il a 2 grammes quasiment d'alcool dans le sang. Premier virage, deuxième virage, troisième virage, et le quatrième, il ne le prendra pas. Il est à 130, là où il aurait dû être à 90.
Rodolphe perd le contrôle de sa voiture, qui fait plusieurs tonneaux. Nous sommes alors le 27 août 2011, 8 mois avant la mort de Maeva Rousseau. Rodolphe Berué, 24 ans, vient de perdre la vie. Ce drame va faire totalement basculer l'existence de ses parents, Alain et Enda. Le père de Maeva est alors aux côtés de son ami, Alain Berué.
Il n'acceptait pas le fait que ce soit un accident. Pour lui, c'était un acte criminel. Et combien de fois on a discuté de ça? Parce que, quelque part, il rendait coupable à notre fille ainsi qu'Alan, quoi.
Car pour Alain Berué, Alan et Maeva sont à l'origine de la rupture de Rodolphe avec sa compagne, et donc responsables indirectement de l'accident de voiture qui a coûté la vie à leur fils.
Ce qui était difficile pour elle, c'est qu'on la rendait responsable de la mort de Rodolphe. Elle me disait, écoute, c'est quand même pas moi qui ai conduit la voiture, c'est quand même pas moi qui ai provoqué l'accident.
Seulement, les époux Berué ne veulent rien savoir. Ils s'en prennent dès qu'ils le peuvent au jeune couple, Alan et Maeva.
Les parents Berué, lorsqu'ils croisent Alan et Maeva, comme ils les rendent responsables de la mort de leur fils, forcément, les choses ne se passent pas bien. Et donc, petit à petit, à chaque fois qu'ils se croisent, il y a des mouvements d'humeur et puis des échanges verbaux peu amènes. Et ça monte crescendo.
Christian Rousseau, le père de Maeva, se trouve alors pris entre deux feux.
Christian Rousseau, il est pris entre deux parce qu'effectivement, Maeva, c'est sa fille. Mais d'un autre côté, Berué, c'est aussi son ami. Donc il veut un peu faire le médiateur quelque part.
On discutait comme ça, puis il dit, est-ce que tu pourrais arranger le coup avec Alan et ainsi que ta fille, quoi. J'ai dit, bon, si tu veux, à la limite, on peut aller à leur rencontre.
Et donc, M. Rousseau va emmener Alain Berué jusqu'à Chérance pour qu'il puisse discuter avec Maeva et Alan. Alain Berué va dire, oui, je suis peut-être allé un peu loin, je m'excuse, et l'affaire va s'arrêter là.
Quelques semaines après la mort de Rodolphe, la situation dégénère brutalement.
Un jour, Maeva est tombée nez à nez avec eux.
Le ton est monté beaucoup plus fort entre les parents Berruette et Alan et Maeva. En tout cas, les choses sont allées très loin, ont complètement dérapé ce jour-là. Le jeune couple se réfugie à l'intérieur de la voiture pendant que Enda tape des coups de pied ou des coups de poing sur le véhicule.
Et la femme a sorti à Maeva, vous allez souffrir autant qu'on souffre. Maeva a pris peur, elle est venue ici avec... Et donc, moi, j'ai dit, tu me laisses... Tu vas tout de suite à la gendarmerie.
Alan et Maeva vont déposer plainte à la gendarmerie pour menace de mort.
Des menaces de mort qui, maintenant que Maeva a été tuée, résonnent tragiquement.
Donc, cette histoire des Berué, effectivement, ça fait un peu tilt. On est en avril 2012. Les faits, les menaces de mort datent de novembre 2011. C'est une piste qu'on ne peut pas écarter. Ce sont des gens qui n'ont jamais fait parler d'eux, qui sont extrêmement posés. Lui, il est artisan. Il est extrêmement connu dans la région, il est là depuis toujours. Donc on ne voilà, c'est, même si ce n'est pas la piste principale, c'est une piste qui potentiellement est intéressante.
Les gendarmes décident donc d'entendre Alain et Enda Berruet pour connaître leur version des faits.
Monsieur Alain Berruet est très sûr de lui, il nous explique qu'il n'a strictement rien à voir avec cette affaire-là, que Monsieur Rousseau est son grand ami et qu'il est désolé pour la jeune fille, qu'il la connaît, qu'il l'appréciait.
Voici ce qu'il déclare.
Quelle relation entreteniez-vous avec Maëva Rousseau ?
C'est des relations de longue date. Quand elle était petite, je l'accompagnais à l'école avec mon fils. Elle m'expliquait comme une jeune fille, ses histoires, tous ses copains, ses trucs. C'était des bons rapports.
Mais ce n'est pas tout. Ce vieil ami de la famille va se montrer très touché par le meurtre de Maëva.
Il a une saillie au terme de laquelle il explique dans quelles conditions il faudrait supprimer le salopard qui a pu faire ça. Hein, c'est à peu près, sont à peu près ces mots.
Alain Berruet détaille ensuite son emploi du temps le soir du 7 avril 2012. Il indique avoir dîné chez des amis et être rentré chez lui vers 23 heures, ce que sa femme confirmera. Mais en examinant leur téléphonie, il y a un détail qui va tout de même interpeller les gendarmes.
Alain Berruet, comme Enda Berruet, ont leur téléphone portable coupé la nuit. Alors on pourrait se dire, effectivement, ils ont coupé leur téléphone, c'est bizarre. Pourquoi ils l'ont coupé cette nuit? Sauf que lorsqu'on regarde leurs habitudes téléphoniques, leurs téléphones sont régulièrement coupés tous les soirs. Donc finalement, l'exploitation des téléphones de monsieur et madame Berruet n'apporte aucun élément à l'enquête. On n'a rien, aucune charge contre eux, donc on les laisse repartir à l'issue de leur audition.
Pour autant, les enquêteurs ne referment pas cette piste. Et en s'intéressant à la vie du couple Berruet, ils vont récolter des informations pour le moins inquiétantes.
Quand on veut décrire l'ambiance de la maison Berruet, les époux ne vivent plus en symbiose. Hein. Elle, elle vit au rez-de-chaussée, lui au premier étage dans leur maison.
Il faut savoir que depuis la mort de son fils, Rodolphe, elle est sous médicaments, constamment. Elle vit plus ou moins dans le noir, les volets fermés, avec des bougies allumées constamment, avec des photos de son fils partout. Elle sort très peu. Elle va tous les jours sur la tombe de son fils, Rodolphe.
Absorbée par son chagrin, Enda Berruet perd contact avec la réalité. Elle va même jusqu'à imaginer que son fils est encore vivant.
Elle va dire à son mari qu'elle entend son fils gratter. Gratter dans la tombe, qu'il n'est pas mort, qu'il faut le sortir de là parce qu'il n'est pas mort. Elle l'entend gratter et lui parler à travers la pierre tombale.
Peu à peu, Alain Berruet se laisse convaincre par son épouse que leur fils Rodolphe est vivant. C'est Christian Rousseau, le père de Maëva, qui en témoigne.
Puis il me dit, Christian, mon fils, il n'est pas mort. J'ai dit, ah bon. Il avait mis un magnétophone au niveau de la tombe. Et du coup, il me fait écouter le magnétophone. Et il y avait des bruits, quoi. Et j'ai bien expliqué, j'ai dit, écoute, ça, c'est des mouvements de terre. Pour pas s'arrêter là-dessus.
Mais les Berruets ne veulent rien savoir et disent à qui veulent entendre que leur fils est enterré vivant. Une nuit, Alain Berruet n'en peut plus. Il se rend au cimetière, dans un état second.
Il va prendre un marteau, un burin, et on va le retrouver sur la tombe de son fils, en train d'essayer de déceler la pierre tombale. Donc les gendarmes locaux de Magny-en-Vexin et le maire sont obligés d'intervenir, de recadrer M. Berruet en lui disant qu'il n'a pas à faire ça, que voilà, c'est pas possible.
Repliés sur eux-mêmes, les Berruets se sont laissés peu à peu dévorer par le chagrin, un chagrin forcément irraisonné.
Alain et Enda Berruet n'ont pas du tout envie d'accepter l'idée que leur fils est mort aussi bêtement que ça.
Pourtant, la conclusion de l'enquête alors menée par les gendarmes est sans appel. Rodolphe Berruet est bien mort d'un accident de la circulation. Les parents du jeune homme sont bien forcés de se résoudre à accepter l'atroce vérité. Dorénavant, leur obsession est de trouver des coupables et de les faire payer. Alors serait-il pour autant allé jusqu'à tuer Maeva par pure vengeance? La vérité ne va pas tarder à éclater. C'est par hasard que les gendarmes vont faire rebondir leur enquête. En effet, le couple Berruet est placé sur écoute téléphonique déjà depuis plusieurs semaines. Et c'est lors d'une conversation entre Enda et une amie à elle qu'un coupable va surgir.
On est mi-juin, 2 mois après les faits. On a Enda Berruet qui est sur écoute, qui appelle une de ses amies et qui va lui dire « Écoute, la nuit des faits, je crois bien que Alain m'a ramené un sac. Je ne sais plus exactement parce que j'étais un peu dans le coltard, mais je crois bien qu'Alain m'a ramené un sac. » Et tout de suite après ça, Alain passe un deuxième appel, toujours à cette amie, en lui disant « À mon avis, c'est Alain qui l'a tué. Il est mêlé à cette affaire. »
Mais ce n'est pas tout. 2 témoignages viennent renforcer les soupçons qui pèsent sur Alain Berruet.
Premier témoignage, c'est le témoignage d'un jeune médecin qui, dans la nuit du 7 au 8, vers 0h30, voit un homme au pied de la maison où le crime s'est déroulé. Un homme qui est en bottes de caoutchouc, qui a une paire de gants roses et qui est à côté d'une camionnette blanche. Et l'homme ne semble pas avoir la conscience tranquille parce qu'il se tourne au fur et à mesure que le jeune médecin progresse, comme s'il voulait éviter que le témoin le reconnaisse.
La camionnette, décrite par ce témoin, ressemble de très près à celle que possède Alain Berruet. Et puis, il y a un autre témoignage qui va être encore plus accablant pour le sexagénaire.
Un jeune couple qui rentre d'une soirée, voit un vieux véhicule, passer devant eux, tout feu éteint, avec un homme hébété au volant. Le deuxième témoin nous dit bah, « Si, moi je sais très bien qui c'est. C'est monsieur Alain Berruet. » Donc là, voilà, nous avons un témoignage qui nous place monsieur Berruet à proximité du domicile de la victime à 00h30, dans le bon créneau horaire.
Le 27 juin 2012, Alain et Enda Berruet sont immédiatement interpellés et placés en garde à vue. L'homme a un mobile. Il a proféré des menaces de mort à Maeva ainsi qu'à son compagnon. Seulement, les preuves contre lui sont encore minces. Les gendarmes vont tout de même essayer de le faire craquer.
Alain Berruet va jouer le grand étonné quand on va l'interpeller. Va nous expliquer qu'il n'a rien à voir avec cette affaire, qu'il est un ami proche de M. Rousseau. Et durant les premières 24 heures de sa garde à vue, il va rester sur cette position-là, qu'il n'a strictement rien à voir avec cette affaire-là, qu'il n'a rien fait, qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là.
Seulement après 30 heures de garde à vue, et confronté aux éléments que les gendarmes ont accumulés contre lui, Alain Berruet craque.
Il va se mettre à pleurer, il va nous expliquer que c'est pas ce qu'il voulait. Qu'il n'était pas venu pour elle, mais il était venu pour Alain. Il va nous relater sa soirée, complètement.
Alain Berruet va boire l'apéritif chez des amis. Un apéritif musclé où les verres s'enchaînent les uns derrière les autres. Et toute la soirée, ils ne vont parler que de Rodolphe.
Il va pas mal boire et il va rentrer chez lui. Et là, il passe devant le cimetière et il a un accès de rage.
Voici ce que Alain Berruet va déclarer.
En roulant, la haine est montée d'un coup dans la tête. C'était en passant devant le cimetière et j'ai pleuré. Je suis rentré chez moi pour mettre les bottes et des gants.
Car, comme l'avait indiqué l'un des témoins, Alain Berruet portait ce soir-là un drôle d'accoutrement. Des bottes en plastique, ainsi que des gants de vaisselle.
Et sa femme lui dit « Mais tu vas où ?» Et il lui dit « Tu sais bien où je vais. » Et là, il prend sa voiture, il va jusqu'à Chérance. Il se gare à côté du domicile de la victime.
Alain Berruet veut aller régler ses comptes avec Alain et Maeva.
Et voici ce qu'il déclare.
Aviez-vous l'intention de tuer Alain en allant le voir chez lui?
Non, pas du tout. Je voulais aller là-bas pour mettre les choses au point avec lui.
Alain Berruet maintient qu'il voulait simplement discuter avec Alain et Maeva ce soir-là. Pourtant, l'homme reconnaît qu'il s'est muni d'une batte de baseball qui était dans son coffre.
Il sort de sa voiture avec ses gants, il sort de sa voiture avec ses bottes, il sort de sa voiture avec sa batte de baseball. Il venait discuter. Mais non, il venait pas discuter. Il venait se venger. Il venait tuer. Et c'est ce qu'il a fait.
Alain Berruet raconte que la porte de la maison d'Alan et Maëva était ouverte. Il est entré, puis est directement monté à l'étage.
Et on imagine la terreur de Maëva, alors qu'il monte cet escalier et qu'il sort, qu'elle voit sa tête sortir, qu'elle voit la batte de baseball, qu'elle voit son accoutrement. Et qu'elle allait en petite tenue dans son lit et qu'elle n'a pas d'issue.
Il se retrouve face à Maëva et il va nous expliquer que là, il n'a même pas parlé.
Et c'est qu'à partir de ce stade-là que c'est parti dans des conditions terribles avec cette batte de baseball qu'il avait à la main.
Il a tapé directement. Il lui porte un premier coup à la tête, il dit elle a crié. Et puis après, il a arrêté de crier, il dit « j'ai tapé ».
Voici ce que Alain Berruet déclare.
« Je l'ai tapé à plusieurs reprises sur la tête, je crois 3 ou 4 fois. Elle ne s'est pas débattue ni défendue. Comme elle me connaissait, elle ne s'est pas doutée de ce qui allait arriver. »
Lui, selon ses dires, elle a porté 2-3 coups. Le légiste et les constatations démontrent qu'il a porté de plusieurs dizaines de coups. Il l'a roué de coups.
Les enquêteurs posent alors la question du fils de Maëva. Alain Berruet a-t-il vu l'enfant ? A-t-il choisi de l'épargner ?
Bébé, il ne l'a pas vu. Alors ça, il a maintenu mordicus jusqu'au bout qu'il n'a pas vu bébé. C'est vrai, c'est pas vrai. Il a même dit à un moment, mais vous imaginez, tuer un gosse, machin, faut être un véritable salaud. Moi, je crois qu'il l'a pas vu, le bébé.
Lors de sa première déclaration, il a bien dit, j'ai pas touché l'enfant parce que ça aurait été lâche. Donc, il l'a vu, et tout est dit. C'est une ordure, c'est une ordure. Parce que ne serait-ce que de s'attaquer à un enfant, ça aurait été lâche, oui, certes, mais c'était encore plus lâche de s'attaquer à une jeune femme qui est toute menue et dans une position de même pas pouvoir se défendre puisqu'elle est couchée, en train de dormir.
Alain Berruet vient d'avouer avoir sauvagement tué la fille de son meilleur ami. Mais l'homme a-t-il prémédité son geste ? Lui maintient qu'il a agi sur le coup de la colère. Malgré les bottes, les gants en caoutchouc et la batte de baseball, qu'il a pris soin d'emporter avec lui en entrant dans la maison.
Il va nous expliquer qu'il avait une batte de baseball dans son véhicule. Voilà, parce qu'il avait toujours une batte de baseball pour se défendre s'il était attaqué. Il va nous expliquer que les gants, effectivement, il les avait dans son véhicule, mais Inda Berruet nous précisera que ces gants viennent de chez eux. Entre ce que peut nous dire M. Alain Berruet, où il essaye de finalement nous indiquer que c'est une idée subite et qu'il a pris le matériel qu'il avait dans sa voiture, ça ne tient pas.
Les Rousseau sont sous le choc. Graziella, la mère de Maëva, se souvient encore du comportement d'Enda Berruet avec elle, peu après le drame.
Je l'ai croisée 2 jours après le décès de Maëva à la gendarmerie. Elle s'est fait compatissante, me mettant la main sur l'épaule, me disant « Oh ma pauvre, je te comprends ». À ce moment-là, je n'étais pas au courant de qui avait fait cet acte. Mais avoir un tel aplomb, une froideur dans ses propos, c'est, je sais pas, c'est surprenant.
Pour Christian Rousseau, l'ami de toujours d'Alain Berruet, le choc est d'autant plus rude.
Ta réaction, c'est me dire que je l'avais entre les mains pendant 2 mois et demi, quoi. Que la personne me côtoyait toujours. Voilà, quoi. C'est ça, là. Je dis, oh, je l'avais entre les mains, quoi.
En fait, quand je pense qu'il est venu faire son numéro, 3 jours encore auparavant, parader chez nous, n'avoir eu aucun respect pour ni la victime, ni pour le père de son ami, pour le père de la victime, ni pour les enfants, les frères. Jusqu'au dernier moment, il a osé imposer son aplomb, ses mensonges, sa manipulation. Purée, s'il y avait un Oscar à lui donner, je pense que je lui donnerais tout de suite. Et tout ça, ça passe pas, je ne le digère pas. C'est inconcevable.
Alain Berruet a-t-il agi seul ? Et quel rôle aurait joué sa femme Enda ? Pour essayer de comprendre ce qui s'est véritablement passé ce soir-là, les gendarmes l'entendent, non sans mal.
Clairement, dès le départ, Enda y met beaucoup de mauvaise volonté. Elle va nous expliquer qu'elle ne se souvient de rien parce qu'elle prend des médicaments. Elle va rester dans le déni comme ça pendant plus de 24 heures en disant qu'elle sait rien, qu'elle n'a jamais rien dit au téléphone.
Elle dira qu'elle avait peur de son mari, qu'elle ne savait pas pourquoi il avait fait ça, qu'elle d'ailleurs ne savait pas qu'il allait faire ça.
Et là, du bout des lèvres, elle va nous reconnaître qu'effectivement, son mari a ramené un sac et qu'elle lui a dit de s'en débarrasser. Mais c'est vraiment du bout des lèvres. Elle ne voudra rien reconnaître de plus.
Voici ce qu'Enda Berruet déclare.
Il m'a dit, je l'ai frappée. Je ne sais pas si elle est morte ou vivante. C'est à ce moment-là que je lui ai dit de prendre le sac et de s'en aller. Je ne voulais pas être mêlée à tout ça.
Alain Berruet décide alors de jeter le sac à main de Maëva dans un endroit bien particulier.
Il va tout jeter dans l'Epte, une petite rivière qui se trouve au Moulin de Fourges.
Le Moulin de Fourges, souvenez-vous, est un restaurant où Alain a l'habitude de travailler.
Le sac à main va être porté à un endroit où il pourrait impliquer Alain. Parce que comme ça, on fait une pierre deux coups. On tue Maëva et on implique Alain.
Ils rentrent chez lui et ils continuent leur journée comme si de rien n'était. Ils continuent le lendemain, ils se lèvent comme si rien n'était. Et la vie pour eux reprend tranquillement.
Interrogé sur la raison pour laquelle il a pris le sac à main de Maëva ce soir-là, Alain Berruet est incapable de répondre. Mais certains ont leur petite idée.
Soit M. Berruet l'a pris en toute connaissance de cause, en se disant on fera passer ça pour un cambriolage. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième hypothèse à laquelle j'adhère plus, c'est que c'est très symbolique. C'est le trophée. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a commis les faits, il vient, il rentre chez lui, et il pose sur la table, devant sa femme, le sac à main de Maëva, il dit « voilà, c'est fait ».
Je pense que de toute façon, ce couple, c'est auto-entretenu dans un deuil pathologique et sordide et dans l'idée qu'il fallait s'en prendre aux responsables.
Le 29 juin 2012, au terme de leur garde à vue, le couple Berruet est mis en examen. Alain est accusé d'assassinat et est placé en détention. Sa femme, Enda, est accusée d'obstacle à la manifestation de la vérité et complicité de destruction d'objets en lien avec un crime. Elle est remise en liberté. 3 ans plus tard, le procès du couple Berruet s'ouvre, le 15 juin 2015, au tribunal de Pontoise, dans le Val-d'Oise. Les proches de Maëva Rousseau espèrent qu'Alain Berruet sera condamné à la peine maximale, 30 ans. D'autant plus que l'accusé va avoir pendant les audiences un comportement pour le moins révoltant.
Il était arrogant, hein, M. Berruet, c'était insupportable. Hein. Il répondait pas aux questions, il tournait autour du pot. Enfin, c'était vraiment... il voulait sauver... C'était son procès, il voulait sauver sa peau. Hein.
Infect. Présomptueux. Imbu de sa personne. Aucun respect pour nous. Aucun respect. Ni pour la victime, ni pour nous.
Il pense que c'est son heure de gloire. Il arrive avec une espèce de croix du Christ là autour du cou que son avocat s'est empressé de lui faire rentrer. Puis c'est pas une petite croix, c'est pas la petite croix très fine, c'est la croix. Le profil bas, ça fait pas partie de son vocabulaire. Hein.
Quand vient le moment d'expliquer son crime, Alain Berruet, aussi incroyable que cela puisse paraître, clame qu'il est avant tout une victime.
Et bien sûr, lui comme Enda Berruet vont enfourcher à nouveau leur leitmotiv préféré, la mort de leur fils n'est pas un accident. C'est-à-dire qu'ils viennent encore à cette audience justifier ce qu'ils ont fait. Ils viennent pas dire, mais c'est pas possible, pourquoi on a fait ça? Non, ils viennent dire, mais on a fait ça parce que d'un autre côté, la mort de notre fils n'est pas un accident.
Si tous les parents qui perdaient leurs enfants dans un accident de la route se mettaient à tuer Pierre, Paul, Jacques, on n'en sortirait pas.
À la barre, Alain Berruet nie toute préméditation. Il explique qu'il est simplement allé discuter avec Maëva et que c'est elle qui l'aurait provoqué, le faisant sortir de ses gonds.
Il est question qu'elle lui ait dit à un moment « Rodolphe est bien où il est ».
On sait qu'elle avait peur de lui et elle lui aurait dit, alors qu'elle le voit arriver avec ses gants MAPPA et sa batte de baseball, « Ton fils, il est bien où elle est ?» Où il est, mais il se moque du monde.
Le 19 juin 2015, après 5 jours de procès, le verdict tombe. Alain Berruet est condamné à 20 ans de réclusion criminelle.
C'était un petit peu moins que ce que l'avocat général avait demandé. Et ça, ça a été un deuxième coup dur pour la famille aussi.
Moi, je pensais qu'elle allait prendre 30 ans. Qu'est-ce qu'elle pourrait perpétuer pour l'heure, là? Eh ben, c'est en attendant, c'est notre fille, pas lui. Hein.
Enda Berruet a quant à elle été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Elle ressort libre de l'audience. Libre de poursuivre sa vie en toute tranquillité. Une tranquillité que les proches de Maëva, eux, ne parviennent pas à trouver.
Quand vous voyez le petit, là, à 15 jours près, sa mère aurait pu voir marcher. Le gamin, il va à l'école, même pas sa mère pour l'accompagner. Quand vous voyez comment vous avez été trahi et tout, pour ça, aujourd'hui, je vais plus entendre parler de ça, je vais oublier tout ça. Quoi.
Moi, j'ai besoin de parler de Maëva, de ce qu'elle ferait si elle voyait ça. Si elle faisait ci. De ce qu'elle aurait aimé faire. Si elle avait vu telle ou telle robe ou... Des petites choses toutes bêtes.
Pour moi, Maëva, c'est mon héroïne. Personne, c'est mon héroïne, à jamais. Voilà.